pour le moment une DPJ, Direction de la protection de la vieillesse. On pourrait appeler ça une DPV, Direction de la protection de la vieillesse. Puis, à l'instar de la DPJ qui pourrait prévenir des abus qu'on ferait aux personnes âgées. Moi, je me souviens d'avoir parlé de ça aussi loin que je me souvienne. Mon ex-belle-mère, qui était Madeleine Plamondon, une femme extraordinaire qui a été sénatrice d'ailleurs, qui était au service d'aide aux consommateurs de Shawinigan. La première fois que j'ai entendu ça dans ma vie, ça sortait de sa bouche à elle. Elle disait peut-être qu'un jour, on devrait faire comme on fait pour les enfants, avoir une direction de la protection des personnes aînées pour éviter les abus. Toutes sortes de publicités de ce temps-là à la radio et à la télé. Qui dit « Si jamais vous êtes témoin d'abus aux personnes âgées, n'hésitez pas à dénoncer. » L'IRIS a fait une étude de là-dessus et Évelyne Couturier est là pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour, M. Pilette.
Bonjour. L'Institut de recherche a fait une étude. D'abord, la thèse principale, c'est quoi?
Mais on a regardé l'ensemble des situations auxquelles peuvent être confrontés les aînés, pardon, et on voit que les aînés négligés dans les CHSLD, ce n'est que l'arme qui cache la forêt. Les besoins sont immenses pour une population vieillissante qui est en croissance et on a besoin de nouvelles institutions pour répondre à leurs besoins. On a des institutions pour d'autres types de populations, mais les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. Il va falloir s'adapter à elles, puis ça passe par des nouvelles institutions.
OK. Donc, il existe actuellement une direction de la protection de la jeunesse, puis il y a même une enquête là-dessus, puis on verra comment il faudra transformer la DPJ. À quoi ça pourrait ressembler et pourquoi faudrait mettre sur pied une direction de la protection des aînés?
Bien, premièrement, c'est important de faire la distinction entre les deux, la DPJ et ce que nous, on présente comme direction de la protection des aînés, donc une DPA, on pourrait appeler ça comme ça.
Okay, oui.
Parce que les aînés, les personnes qui sont les enfants, la jeunesse, n'ont pas nécessairement toute l'autonomie de pouvoir prendre des décisions par elles-mêmes, alors que les personnes âgées, même lorsqu'elles sont en perte d'autonomie, ont quand même un peu plus d'autonomie, ont quand même un peu plus on devrait avoir, leur permettre de prendre des décisions par elles-mêmes, de déterminer c'est quoi leurs besoins. Donc, il faut quand même faire la distinction. C'est pas prendre à la place des personnes aînées les décisions, mais de les accompagner là-dedans. Parce que présentement, les systèmes au Québec, que ce soit pour gérer le logement, pour gérer les finances publiques, les finances privées, la santé et tout, c'est des systèmes qui sont extrêmement complexes. On parle de labyrinthe, ça prend presque un GPS pour pouvoir se retrouver là-dedans. Et ça, c'est vrai pour toute la population, mais pour les personnes âgées, c'est une couche supplémentaire de difficultés, entre autres parce que elles sont âgées. Fait que si on prend, par exemple, une personne qui est dans un appartement au centre-ville de Trois-Rivières et là, a un problème avec son propriétaire, si elle va devant la régie du logement, ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour avoir une première audience. Mais quand on a 90-92 ans, attendre 2 ans pour une première audience, là, ça fait pas de sens. Donc, il faut essayer de modifier les différentes institutions qui existent. Puis, il faut aussi permettre d'accompagner ces gens-là dans leur démarche. Parce que si on prend l'exemple avec les logements, un appartement, c'est très lourd et complexe. On ne sait pas exactement quelles sont les mesures qu'il faut prendre.
Oui, mais l'abus, souvent, va venir de l'intérieur, de la famille. Il y en a
Absolument.
Qui, les parents, nos parents ont cumulé des biens tout au cours de leur vie. Ils sont en perte d'autonomie, là. Hein? Ils ont des pertes de mémoire également. Et puis, c'est facile, hein? C'est l'occasion qui fait le larron. C'est facile pour l'enfant d'aller voir le parent, d'y emprunter sa carte de guichet automatique ou d'aller fouiller dans son bas de laine.
Absolument. Et on parle de proches, on parle de famille, on parle de voisins, on parle de gens qu'on peut engager pour s'occuper de nos parents vieillissants ou notre famille vieillissante. Les abus sont souvent faits par les personnes qui sont proches, mais les aînés s'en rendent compte parfois, mais c'est très difficile à dénoncer. Donc, il existe une ligne abus aînés qui permet de référer quand on a ce genre de situation-là, mais souvent, les personnes qui sont abusées vont commencer par parler des problèmes qui sont périphériques à leur abus. Par exemple, un problème par rapport à l'alimentation, par rapport à leur voiture, des problèmes qui sont périphériques, mais lorsqu'on discute avec elles, on se rend compte que ce problème-là, c'est la pointe de l'iceberg pour quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça qu'on pense qu'avoir un guichet unique qui permet aux personnes d'appeler lorsqu'elles ont différents types de problèmes et qu'elles sont accueillies par des personnes qui ont une formation pour pouvoir les accompagner là-dedans, accompagner dans leur récit, les écouter, ça permet de régler les problèmes pour lesquels ils appellent, mais aussi de voir quelle est l'étendue de la situation et peut-être de découvrir des situations d'abus qui sont très, très, très difficiles à dénoncer, surtout quand on le vit. On voit souvent l'abus de l'extérieur, mais quand on le vit de l'intérieur, c'est très difficile à nommer, c'est très difficile à reconnaître, c'est très difficile aussi de se placer dans une position où on accuse peut-être la seule personne qui vient nous visiter, peut-être la seule personne qui prend soin de nous.
Tu sais, puis le voisin hésite peut-être à dénoncer. Pour un enfant, tu sais, ça vient te chercher au triple, là, hein? C'est, donc, tu sais, faire du mal à un enfant, c'est toujours terrible. C'est comme si on considère que faire du mal à un aîné, bon, tu sais, il est capable de se défendre, tu sais, alors que c'est pas toujours le cas. Alors, donc, c'est d'inciter également ceux qui sont témoins d'abus à dénoncer puis à porter plainte comme si c'était des enfants.
Comme c'était des enfants, mais dans le respect aussi de la personne pour qui on dénonce, c'est-à-dire on ne va pas tout simplement déraciner la personne âgée de son milieu pour la mettre dans une autre famille, comme on peut faire parfois pour les enfants pour leur bien. Il faut les accompagner là-dedans, il faut les écouter, il faut essayer de comprendre la globalité de la situation. Donc c'est vraiment une institution qui est différente que ça nous prend. Ça nous prend vraiment une institution qui est particulière pour les aînés, une institution aussi qui inclut les personnes âgées dans la réflexion par rapport à ça. Donc, par exemple, je prends les maisons des aînés que le gouvernement met de l'avant, mais c'est le gouvernement qui prend une décision en disant « Nous pensons que le meilleur moyen pour prendre soin des personnes âgées, c'est ceci. » Mais faut inclure les personnes âgées, faut leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, faut leur demander comment on doit faire pour prendre soin d'eux. Il faut les intégrer dans la procédure. Et ça, ça se fait pour le logement, mais ça se fait aussi pour les questions d'abus, ça se fait pour les questions de finances, ça se fait pour les questions de santé. Il faut inclure ces personnes âgées. Parce que même lorsqu'elles sont en perte d'autonomie, même lorsqu'elles ont des pertes cognitives, ce sont des adultes et il faut les traiter comme des adultes.
Merci, Mme Couturier.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
À bientôt. Évelyne Couturier, selon cette étude de l'IRIS, on devrait peut-être se pencher sur une direction de la protection des aînés. Tout à l'heure, je disais de la vieillesse, là, mais plus des aînés, à l'instar de la DPJ.